Dieu a créé Arrakis pour éprouver les fidèles. Extrait de La sagesse de Muad'Dib par la princesse Irulan. Dans l'obscurité de la caverne, Jessica entendit crisser le sable sous les pas de ceux qui s'avançaient, en même temps qu'elle percevait les lointains cris d'oiseaux qui, avait dit Stilgar, étaient les appels des sentinelles. Les seaux de plastique furent ôtés des ouvertures et Jessica aperçut les ombres du soir, qui, au dehors, glissaient sur le rocher depuis le bassin. Elle sentit le retrait du jour dans la chaleur sèche et les ombres. Bientôt, elle le savait. Ses perceptions aiguisées lui permettraient, comme les Fremen, de déceler le plus infime changement d'humidité dans l'air. Elle se souvint avec quelle hâte ils avaient ajusté leur distille au moment de l'ouverture. Loin dans la caverne, une voix entonna « Ima trava okolo, i korenja okolo ». Elle traduisit « Voici les cendres et voici les racines ». La cérémonie funèbre commençait. Le regard de Jessica se posa sur le couchant, sur les strates de couleurs déployées dans le ciel. Les ombres qui, là-bas, s'étendaient sur les dunes et les rochers étaient celles de la nuit. Pourtant, la chaleur ne mourait pas. La chaleur la forçait à penser à l'eau et à ces gens qui avaient été entraînés à n'avoir soif qu'à des moments précis. La soif. Elle se souvenait des vagues sous le clair de lune de Caladan, de la robe blanche de l'écume sur les récifs, du vent chargé d'embrun. À présent, la brise qui venait du désert desséchait la peau nue de ses joues et de son menton. Les nouveaux embouts, dans ses narines, l'irritaient et elle avait une conscience aiguë de la présence du tube qui plongeait dans le distille et récupérait l'humidité de sa respiration. Le distille lui-même était une étuve. « Votre vêtement sera plus confortable lorsque votre corps aura moins d'eau », avait dit Stilgar. Elle savait qu'il avait raison, mais elle ne se sentait pas pour autant à l'aise en ce moment précis. Inconsciemment, l'eau la préoccupait et cela pesait sur son esprit. « Non, » corrigea-t-elle aussitôt. « C'est l'humidité qui me préoccupe. » Et c'était là un problème plus profond et plus subtil. Elle entendit des pas qui s'approchaient et se retourna pour voir Paul surgir des profondeurs de la caverne, suivi de Shiny. « Autre chose encore, » songea-t-elle. « Il faut que je l'avertisse quant à leur femme. Ce n'est pas parmi elles qu'il peut trouver une épouse digne d'un duc. » Une concubine, oui, mais pas une épouse. Puis elle pensa à elle-même. M'a-t-il gagné à ses projets? Elle avait été si bien conditionnée. Je peux penser aux nécessités matrimoniales de la royauté sans évoquer mon propre concubinage. Pourtant, j'étais plus qu'une concubine. Mère, Paul était devant elle, Shiny à ses côtés. Mère, savez-vous ce qu'ils font là-bas? Elle leva les yeux et rencontra son regard sombre sous le capuchon. « Je crois le savoir. Shiny m'a montré, parce que je suis censé assister à cela et donner mon accord pour la mesure de l'eau. » Jessica regarda Shiny. « Il récupère l'eau de Jemis, » dit Shiny. Sa voix aiguë était rendue nasillarde par les embouts de ses narines. « Telle est la règle. La chair d'un homme lui appartient. » Mais son eau revient à sa tribu, sauf dans le combat. Ils disent que cette eau est à moi, dit Paul. Jessica se demanda pourquoi cela éveillait soudain sa méfiance. L'eau du combat appartient au vainqueur, reprit Shiny. Parce qu'il faut se battre sans distille. Le vainqueur a le droit de récupérer l'eau qu'il a perdue durant le combat.
Je ne veux pas de cette eau, grommela Paul.
Il sentait qu'il appartenait à de multiples images qui se déplaçait simultanément de façon heurtée, déconcertante pour la vision intérieure. Il n'était pas sûr de ce qu'il ferait, mais il avait une certitude. Il ne voulait pas de l'eau distillée à partir du corps de Jemis.
« Mais, » dit Shiny, « c'est de l'eau ?»
Jessica s'émerveilla du ton qu'elle avait employé pour prononcer ce simple mot « eau ». Elle y avait mis tant de signification. Il existait un axiome Bene Gesserit qui disait « La survie est la capacité de nager en des eaux étranges ». Et Jessica songea « En ces eaux étranges, Paul et moi devons trouver les courants favorables, si nous voulons survivre. Accepte cette eau, dit-elle. Il reconnut ce ton. Elle l'avait déjà employé avec son père lorsqu'elle lui avait dit d'accepter la somme importante qu'on lui offrait en échange de sa participation à une entreprise risquée, simplement parce que l'argent maintenait la puissance des Atreides. Sur Arrakis, l'eau était de l'argent. Elle l'avait compris. Paul demeura silencieux. Il savait qu'il ferait ce qu'elle lui avait dit de faire, non parce que c'était un ordre, mais parce que le ton qu'elle avait employé le forçait à réfléchir. Refuser l'eau serait refuser les pratiques Fremen. Il retrouva les mots du Kalima 467 de la Bible catholique orange de Yue et dit « De l'eau vient toute vie. » Jessica le regarda. « Où a-t-il appris cela ?» se demanda-t-elle. « Il n'a jamais étudié les mystères. »«
Ainsi est-il dit, » fit Shaini. « Jio du char Mantin. Il est écrit dans le Shahnama que l'eau fut la première chose créée. »
Jessica eut un frisson soudain dont elle ignorait la raison, et ceci plus que sa réaction l'inquiétait. Elle se détourna pour dissimuler son trouble à l'instant même où se couchait le soleil. Un orage de couleurs s'enfla dans le ciel. « C'est le moment !» lança la voix de Stilgar de la caverne. « L'arme de Jemis a été tuée. Jemis a été appelé par lui, le Shai-Hulud, qui a ordonné les phases des lunes qui chaque jour passent pour n'être plus à la fin que des brindilles desséchées. » Stilgar baissa la voix. « Ainsi en est-il de Jemis ?» Le silence s'établit dans la caverne. Dans l'ombre, Jessica distinguait Stilgar comme une fantomatique silhouette grise. À nouveau, son regard revint sur le bassin. Elle sentit monter la fraîcheur vers son visage. « Les amis de Jemis vont approcher, » dit Stilgar.
Derrière Jessica, des hommes se mirent en mouvement,
tendirent un rideau devant l'entrée. Un unique brilleur fut allumé au fond de la caverne. Sa clarté jaune esquissa les contours des visages. Jessica prêta l'oreille au lent froissement des robes. Shaini fit un pas en avant, comme attiré par la lumière. Jessica se pencha vers Paul et murmura à son oreille, dans le code familial, « Suis-les, fais ce qu'ils font. Ce ne sera qu'une simple cérémonie pour l'apaisement de l'âme de Jemis. Ce sera plus que cela, » songea Paul. Il éprouvait une sensation de torsion, comme s'il essayait au fond de sa conscience de saisir quelque chose qui bougeait pour l'immobiliser. Shaini se glissa à côté de Jessica et lui prit la main.
« Venez, Sayadina, nous devons prendre place à l'écart. »
Paul les regarda disparaître entre les ombres, le laissant seul. Il se sentit abandonné. Les hommes qui avaient mis le rideau en place l'encadrèrent. « Viens, Ouzoul. » Il les laissa le guider, le pousser à l'intérieur du cercle qui s'était formé autour de Stilgar, immobile sous le brilleur, auprès d'un amas aux formes anguleuses que recouvrait une robe. Sur un geste de Stilgar, l'assistance s'accroupit dans un bruissement de robe. Paul fit de même, sans quitter Stilgar des yeux. Sous le brilleur, ses yeux devenaient deux puits noirs. Près de son cou, l'étoffe verte brillait. Puis, Paul baissa le regard sur ce qui se trouvait au pied de Stilgar, et il reconnut le manche d'une balisette. «
L'esprit quitte l'eau du corps lorsque se lève la première lune, » dit Stilgar. Ainsi est-il dit. Lorsque se lèvera la première lune, cette nuit, qui appellera-t-elle?
Jemis,
psalmodia l'assistance. Stilgar pivota sur un talon et son regard glissa de visage en visage.
J'étais un ami de Jemis, dit-il. Au trou dans le rocher, lorsque l'avion faucon a fondu sur nous, c'est Jemis qui m'a poussé à l'abri.
Il se baissa, souleva la robe qui recouvrait l'amas et dit « En tant qu'ami de Jemis, je prends cette robe. C'est le droit du chef. » Il se redressa, mit le vêtement sur son épaule. À présent, Paul découvrait tous les objets entassés là. L'éclat gris d'un distil, un joli trusé, un mouchoir et un petit livre, un manche de kris, un fourreau vide, un paquet enveloppé de tissu, un paracompas, un distrans, un marteleur, une pile d'hameçons métalliques gros comme le poing, des petits rochers dans un fragment d'étoffe, des plumes liées ensemble, la balisette, posée à côté. Ainsi Jemis jouait de la balisette, songea-t-il. Et il se souvint de Gurney Halleck, de tout ce qu'il avait perdu. L'avenir qu'il avait entrevu lui avait révélé certaines lignes de probabilité conduisant à une rencontre avec Gurney, mais ces lignes étaient rares, et chaque fois, l'image de la rencontre avait été sombre, brumeuse. Cela le troublait. Il restait perplexe devant le facteur d'incertitude qui habitait son pouvoir. « Cela signifie-t-il que je ferai quelque chose, que je pourrai faire quelque chose qui amènerait la fin de Gurney, ou son retour à la vie, ou... » Il secoua la tête. À nouveau, Stilgar se pencha sur l'amas d'objets. « Pour la femme de Jemis et pour les gardes, » dit-il en choisissant les petits rochers et le livre. « Le droit du chef, » répondit la foule. « Le marqueur du service à café de Jemis, » reprit Stilgar en prenant un petit disque de métal vert. « À notre retour au siège, il sera offert à Ouzoul durant la cérémonie qui sied. » Le droit du chef. Enfin, Stilgar saisit le manche de Chris et dit « Pour la plaine funèbre. » « Pour la plaine funèbre, » firent les voix en écho. Debout dans le cercle, en face de son fils, Jessica hocha la tête. Elle reconnaissait la source ancienne du rite. La rencontre entre l'ignorance et la connaissance, entre la brutalité et la culture. Tout est dans la dignité avec laquelle nous traitons nos morts. Elle regarda Paul. Comprend-il cela? Sait-il ce qu'il faut faire? Nous sommes les amis de Jemis, reprit Stilgar. Nous ne pleurons pas nos morts comme une bande de garvargues. À gauche de Paul, un homme à la barbe grise se leva. J'étais un ami de Jemis, dit-il. Il s'avança vers la pile d'objets et prit le distrans. Lorsque notre eau vint à manquer au siège des deux oiseaux, Jemis sut partager. Et il regagna sa place dans le cercle. Suis-je censé dire que j'étais un ami de Jemis? Se demanda Paul. Attendent-ils que je choisisse quelque chose? Il vit les visages qui se tournaient vers lui furtivement. Est-ce cela qu'ils attendent? De l'autre côté du cercle, un second homme se leva et alla prendre le paracompas. J'étais un ami de Jemis, dit-il. Lorsque la patrouille nous surprit à l'anse de la colline et que je fus blessé, c'est Jemis, en détournant l'attention sur lui, qui permit de sauver tous ceux qui avaient été blessés. Tout comme le premier, il regagna sa place. À nouveau, Paul vit des visages se tourner vers lui. Il y lut l'attente et baissa les yeux. Un coude le toucha et une voix lui souffla. Amènerais-tu la destruction sur nous? Comment dire que j'étais son ami, se dit-il. Une nouvelle silhouette se dressa, s'avança dans la lumière, et sous le capuchon, Paul vit le visage de sa mère. Elle prit un mouchoir dans l'amas d'objets et dit « J'étais une amie de Jemis. » Lorsque l'esprit des esprits qui était en lui vit le besoin de vérité, cet esprit se retira de lui et épargna mon fils. Elle reprit sa place dans le cercle. Et Paul se souvint du mépris qu'il y avait eu dans sa voix lorsqu'après le combat, elle lui avait dit « Quelle impression ressent le tueur ?» Une fois encore, les visages se tournèrent vers lui. Une fois encore, il décela la peur, la colère. Il se souvint soudain d'une bobine que lui avait projetée sa mère, le culte des morts. Maintenant, il savait ce qu'il devait faire. Lentement, il se leva. Un soupir courut dans le cercle. Comme il s'avançait vers le centre, il eut l'impression que son « moi » s'effaçait progressivement. C'était comme s'il eût perdu un fragment de lui-même qu'il devait retrouver ici. Il se pencha sur l'entassement d'objets, prit la balisette. Une corde résonna doucement. « J'étais un ami de Jemis, » murmura Paul. Il sentit alors les larmes qui brûlaient ses yeux, et sa voix se fit plus forte. « Jemis m'a appris que, lorsqu'on tue, on paie le prix. » J'aurais aimé mieux le connaître. » Sans rien voir, il retourna vers le cercle et se laissa aller sur le sol. Une voix souffla, il a versé des larmes. Et le murmure courut. Ouzoul a donné de l'humidité aux morts. Des doigts effleurèrent ses joues. Il entendit des exclamations étouffées. Jessica percevait les origines profondes de ses réactions, les terribles inhibitions qui s'attachaient aux pleurs versés. Elle se répéta les mots qu'elle venait d'entendre.
Il a donné de l'humidité aux morts. C'était un cadeau au royaume des ombres, des larmes qui seraient sacrées. Rien sur ce monde ne lui avait encore donné à ce point le sens de la valeur suprême que représentait l'eau. C'était plus que les marchands d'eau, plus que les pots desséchés, les distilles, le rationnement. C'était la vie elle-même, avec son symbolisme et ses rites. C'était l'eau.
« J'ai touché sa joue, » murmura une voix. « J'ai senti le don. » Dans le premier instant, ses doigts qui effleuraient son visage éveillaient de la crainte en Paul. Ses doigts s'étaient roidis sur le manche de la balisette et il éprouvait contre sa paume la froide morsure des cordes. Puis il vit les visages, par-delà les mains qui se tendaient, les yeux qui interrogeaient. Les mains se retirèrent alors. La cérémonie funèbre reprenait son cours. Pourtant, à présent, il y avait autour de Paul un espace nouveau. Il se trouvait isolé, et c'était là le témoignage du respect de l'assistance. Un chant profond s'éleva. « Regarde Shai Hulud, celui qu'appelle la pleine lune. Rouge est la nuit, le jour qui fuit, couleur du sang qu'il répandit. Nous prions à la lune pleine pour que sur nous la chance vienne, et que nous touchions enfin au terme de notre quête en terre ferme. »